Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Contamination en hausse, taux d'incidence aussi. Assiste-t-on à un début de reprise de l'épidémie de Covid? La tendance de ces derniers jours est à surveiller de près, en sachant qu'il suffit parfois de quelques clusters pour qu'un département rebascule dans le rouge. On verra ça en Haute-Loire dans un instant. Et puis le vaccin contre la grippe dans un bras, la troisième dose de rappel anti-Covid dans l'autre. C'est une double vaccination qu'on vous proposera à partir de vendredi si vous êtes dans la cible. À la une ce matin, il y a aussi la justice en chantier, vaste consultation lancée hier pour aboutir à des réformes massives pour le prochain quinquennat. En attendant, c'est votre invité, Nicolas, qui en a la charge.
Oui, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui sera à notre micro avec Léa dans une vingtaine de minutes. Appelez-nous, amis auditeurs, 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, les jeunes LR avec Barnier, entiché de l'ancien négociateur du Brexit. La récolte de miel, catastrophe. En France, on en produira deux fois moins que l'an dernier. Et puis bourdonnant comme une abeille, le drone est-il l'avenir de la livraison? On va se poser la question.
France Inter.
Est-ce parce que les Français se sont rués sur les tests jeudi dernier avant qu'ils ne deviennent payants vendredi? Ou est-ce une tendance de fond? Les cas de Covid sont donc repartis à la hausse. 4600 contaminations détectées chaque jour en moyenne la semaine dernière. C'est 12% de plus que la semaine précédente. Un taux d'incidence en augmentation dans 73 départements. La Haute-Loire est par exemple repassée à 69 cas pour 100 000 habitants. Christophe Vincent.
En Haute-Loire, plusieurs clusters ont inversé la courbe, comme ce Rassemblement national d'adeptes du tandem au Chambon-sur-Lignon. 70 participants, 56 cas positifs, dont le maire Jean-Michel Hérault, qui a dû être hospitalisé.
On portait pas le masque, on est resté 3 heures dans une salle pas suffisamment aérée. C'est le fait de relâcher les gestes de prudence qui est en cause. J'aurais porté le masque, j'aurais demandé à ce que la pièce soit aérée. Ça serait sans doute pas passé de cette manière-là, donc je me sens coupable.
Médecin au puits et représentant des professionnels de santé, Roland Rabérin n'est pas inquiet.
Ça varie beaucoup et pas de façon synchrone entre tous les départements de la région, avec les décalages qu'on peut observer entre les départements les plus urbains et les départements ruraux. Aujourd'hui, c'est pas alarmant. Maintenant, il faut observer de près l'évolution sur les semaines qui suivent.
Le médecin esquisse un lien entre la recrudescence des virus saisonniers et le relâchement des gestes barrières. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Et puisqu'on parle des virus saisonniers, le vaccin contre la grippe va commencer à être administré vendredi. La campagne est avancée de quelques jours parce que cette année, avec le Covid, le risque de co-infection est plus élevé, dit la Direction Générale de la Santé, qui veut encourager la double vaccination grippe plus troisième dose de rappel anti-Covid. Bonjour Véronique Julia.
Bonjour.
Cette troisième dose qui a du mal à atteindre sa cible pour l'instant.
Oui, soignants, personnes âgées, patients avec comorbidité, à ce jour, on estime que 4 à 5 millions de personnes sont éligibles à cette dose de rappel, c'est-à-dire qu'elles ont été pleinement vaccinées il y a au moins 6 mois. Le problème, c'est que pour l'instant, moins de la moitié d'entre elles a reçu cette troisième dose et le site Doctolib regorge de créneaux de vaccination encore disponibles. On le sait, grippe et Covid menacent finalement les mêmes populations. Alors, puisqu'on a les doses et puisque c'est autorisé, autant faire d'une pierre deux coups. Un vaccin grippe dans le bras droit, un rappel Covid dans le bras gauche, de quoi appréhender l'hiver avec un peu plus de sérénité. Un simple rappel, si les plus de 65 ans ne représentent que 5 à 10% des cas de grippe, ils constituent l'essentiel des quelques milliers de décès attribués à la grippe chaque année.
Et justement pour la grippe, Véronique, à quoi faut-il s'attendre cet hiver?
Eh bien l'an dernier, vous le savez, il n'y a pas eu de grippe en France, mais la campagne de vaccination avait plutôt bien marché. La population s'était davantage vaccinée. On avait atteint un taux de couverture de 60% chez les plus de 65 ans, c'est-à-dire 8 points de plus que l'année précédente. Alors qu'en sera-t-il cette année? Difficile à anticiper. Mais pour le docteur Anne Monnier, généraliste et épidémiologiste, un certain nombre d'éléments font craindre une épidémie.
On a déjà des cas de grippe, il y a un peu de relâchement sur les mesures barrières, les voyages reprennent et on sait aussi qu'il n'y a pas eu de grippe l'année dernière, donc il n'y a pas eu de stimulation de l'immunité de la population. On n'aura peut-être pas tous la grippe, mais en tout cas on pourrait la faire circuler plus facilement.
Pour bien faire, il faut une couverture vaccinale contre la grippe de 75% dans les populations à risque. On tourne plutôt en France chaque année autour de 50%.
Merci Véronique. Julia, spécialiste santé de France Inter. Et puis c'est aujourd'hui que le projet de prolongation du pass sanitaire, si besoin jusqu'à fin juillet, arrive dans l'hémicycle à l'Assemblée, ce qui promet de vigoureux débats entre le gouvernement et l'opposition qui dénonce un déni de démocratie. Conséquence de la pandémie, les constructeurs auto sont toujours en manque de semi-conducteurs importés d'Asie. Résultat, la moitié des usines européennes Renault sont à l'arrêt cette semaine. Celle de Sandouville en Seine-Maritime ne tournera pas pendant 15 jours.
Et il y a aussi 8h06 les embouteillages de containers dans les ports.
Et le retard d'approvisionnement qui va avec, les entreprises attendent, les particuliers aussi quand ils déménagent hors des frontières de la métropole, leurs meubles en transit pendant de longues semaines. Margot Turgy est allée voir les déménageurs internationaux de l'entreprise Alizé dans l'Essonne, spécialisée dans le transport vers l'outre-mer, l'Afrique et l'Amérique.
Au volant de son chariot élévateur, Jean-Willy, déménageur, enchaîne chargement et déchargement de conteneurs.
Avant, normalement, on était plus à 4 conteneurs par jour, mais avec tous les retards qu'il y a eu, il fallait mettre les bouchées doubles.
Alors que les ports de la Réunion et d'Amérique du Nord sont saturés, rattraper le retard va prendre plusieurs mois, explique le directeur d'Alizé, Stéphane Landier.
Sur la Réunion, habituellement, on est entre 6 et 8 semaines de délai pour acheminer un client, et aujourd'hui, on est plus sur entre 6 et 10 semaines. Le délai, il est également important pour l'Amérique du Nord. Bah, habituellement, les délais, c'est entre 3 et 5 semaines à peu près. Alors, on va être plus sur des délais d'entre 7 et 8 semaines.
Et si le prix du conteneur a quasiment triplé pour l'Amérique du Nord, Stéphane Landier a choisi de ne pas le facturer. Pour alléger la facture, il prend à sa charge les meubles qui stationnent pendant plusieurs mois, alors que les familles ont déjà déménagé.
On a stocké le mobilier pour les clients, la plupart du temps, gratuitement, pour que les gens puissent partir et que nous puissions expédier au moment où on avait des places sur les bateaux.
Pour le déménageur, le retour à la normale n'est pas pour tout de suite.
Le marché va s'assainir, pas avant fin 2022, et encore, ça va pas s'assainir tout de suite, à mon avis, là, pour un an et demi, je pense.
Rien qu'en ce moment, une centaine de bateaux attendent au large des côtes ouest américaines de pouvoir être déchargés dans les ports de Long Beach et Los Angeles.
Et si la reprise économique est bien là, la pandémie n'est donc pas terminée. La Lettonie vient par exemple d'imposer un nouveau confinement d'un mois. Le pays ne compte pas assez de vaccinés. Quand Saint-Pétersbourg instaure le pass sanitaire, la Russie enregistre des contaminations records depuis plusieurs jours.
En France, Florence, ce fut l'une des images du pays en 2018 et 2019.
Des ronds-points sur lesquels avaient fleuri des pancartes et des drapeaux brandis par des hommes et des femmes en gilets jaunes. Ils ont refait leur apparition ce week-end avec le retour de l'inquiétude sur le pouvoir d'achat. Une mobilisation timide, mais à 6 mois de la présidentielle. Ces militants du quotidien veulent faire entendre leur voix, comme au rond-point des vaches à Saint-Étienne du Rouvray, on est au sud de Rouen. Reportage signé Delphine Evenou.
Ils n'ont jamais cessé de se rassembler dans une petite baraque construite au bord du rond-point des Vaches. Mais depuis la rentrée, les réunions sont bien plus fréquentées. On y discute passe sanitaire, réforme des retraites et surtout coût de la vie. Frédéric vit de petits boulots et de récupération. Elle fait les comptes.
L'essence, les énergies pour pouvoir se chauffer chez soi. L'alimentaire, là, comme quoi il y aurait eu des mauvaises récoltes ou quoi. Boum, tout de suite ça monte.
Et pour Carlos, ouvrier dans le bâtiment, le salaire ne suit pas.
C'est 1 480 euros net. Moi, j'ai rien contre mon patron, mais ça fait 8 ans et demi que j'ai pas d'augmentation.
Alors il a répondu présent samedi.
On veut pas répéter les mêmes erreurs qu'on a commises dans le passé. Donc on a bloqué personne, on a passé seulement que des messages. Parce qu'on a perdu une bonne partie de la population qui était avec le mouvement parce qu'on les bloquait.
Objectif piqûre de rappel, confirme Olivier, opérateur industriel et figure du rond-point.
Le but était de remonter de la présence, du jaune, des slogans, du tractage. Crescendo, ça va reprendre.
Même si les attentes ont changé par rapport à l'hiver 2018.
On ne s'attend pas à grand-chose. Maintenant, la contestation populaire doit être présente, doit être là. Les élections aussi, même si on ne parle pas de politique, les élections arrivent à grands pas. Et en fait, il ne faut pas qu'ils nous oublient.
Le rendez-vous est déjà donné samedi prochain pour une mobilisation régionale.
Delphine Evenou, elle veut la retraite à 65 ans, la dégressivité des allocations chômage et la débureaucratisation du pays. Valérie Pécresse et son programme de candidate dans les colonnes du journal L'Opinion. Aujourd'hui, elle propose de supprimer 150 000 postes de fonctionnaires dans ce qu'elle appelle l'administration administrante. Au congrès des adhérents LR du 4 décembre, elle fera face à Xavier Bertrand, Michel Barnier, Éric Ciotti et Philippe Juvin, tous en campagne auprès de ceux qui vont les départager, soit les 90 000 adhérents du parti, dont 11 000 encartés chez les jeunes LR qui nagent en ce moment, Anne Souhaitement, en pleine Barnier-mania.
Président des jeunes avec Barnier, Victor Bonin, 19 ans, n'en démord pas, il y a une mode Barnier.
Des responsables départementaux, une cohorte de militants jeunes qui se disent comment on fait pour participer, j'aimerais bien militer, j'aimerais bien coller pour Michel Barnier.
Comment expliquer cette Barnier-mania? D'abord par sa stature internationale.
Ministre des Affaires étrangères, commissaire européen, négociateur du Brexit. Aujourd'hui, quand on le voit, on se dit, oui, cet homme, il peut être sur le perron de l'Elysée.
Ensuite, par sa fidélité au parti, contrairement à Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, Michel Barnier n'a jamais quitté le navire, décisif selon Guilhem Carayon, président des Jeunes LR.
Les jeunes militants sont très à cheval sur la question de la fidélité au parti, qui pour le coup est très important pour eux. Les militants, c'est des gens qui travaillent de manière bénévole pour leur famille politique. Ils se lèvent très tôt le matin et ils se couchent très tard le soir pour aller coller des affiches, pour aller distribuer des tracts. Donc moi je pense que c'est un argument évidemment qui est important et Michel Barnier incarne cette fidélité.
Peu importe que Michel Barnier soit loin derrière dans les sondages, Inès Chablis-Bouillon, 26 ans, y croit.
Les sondages, c'est un thermomètre. Et là, le thermomètre nous dit surtout que Barnier a un déficit de notoriété. Mais pour moi, c'est quelque chose qui peut être comblé par la campagne présidentielle.
Kamikaze pour certains, les jeunes avec Barnier promettent une tribune de soutien dans la presse d'ici quelques jours. C'est du délire. S'ils choisissent Barnier, c'est la fin de la droite. Ça l'arme un cadre.
Anne Souhaitemont, de retour dans la course à la présidentielle. Le souverainiste François Asselineau lance sa campagne aujourd'hui. Il avait remporté 0,92% des voix en 2017. Une cuillère de miel pour s'éclaircir la voix. On connaît ça, Nicolas, le matin à la radio ou à toute heure de la journée pour le plaisir. Mais le miel français cette année sera rare. Moins de 10 000 tonnes récoltées. Production en baisse de moitié par rapport à l'an dernier. L'année 2021 est la pire qu'aient connu les apiculteurs à cause d'un printemps et d'un été pourris. Écoutez Dominique Sénat, producteur d'Île-de-France et vice-président de l'Union nationale de l'apiculture.
Première quinzaine d'avril, en fait, il y a eu un gros coup de gel. Et ce gros coup de gel a stoppé, mais net, tant les colonies que la végétation dans sa globalité. On est vraiment sur le changement climatique, hein, puisque on fonctionne en pic en permanence. Pour info, dans les ruches, il y a à peu près 35 degrés qui sont maintenus par les abeilles, et du jour au lendemain, elles vont perdre ces 15-20 degrés, et c'est à elles de pallier en fait à ce manque. C'est du jamais vu. Ce que nous souhaitons, c'est que le consommateur français continue à acheter des miels français, puisque dans cet acte ou de cette action d'achat, il va à la fois acheter un produit de qualité, mais de plus, il va favoriser le maintien du cheptel français, ce qui fait parallèlement maintenir l'ensemble de la pollinisation sur l'ensemble de la végétation, tant fruits, légumes, production agricole. Le fait d'acheter du miel participe à tout ça.
Voilà, les récoltes en baisse constante de 32 000 tonnes produites en 1995. On passera donc à moins de 10 000 cette année. Chez les industriels, c'est la saison des résultats du troisième trimestre. Danone publiera les siens aujourd'hui, qui reprennent des couleurs après un début d'année difficile. Mais le groupe reste plombé par la consommation d'eau minérale en baisse depuis l'essor des gourdes qui permettent de consommer moins de plastique. Evian, Volvic, les marques phares de Danone sont donc en train de tirer le géant de l'agroalimentaire vers le bas, Laurent Kramer.
Alors que les ventes d'eau minérale reculent chaque année en France depuis 2019, Danone a engagé 2 milliards d'euros d'investissement pour tenter de verdir sa production de bouteilles en plastique. Objectif 100% recyclable à l'horizon 2025. Avec un léger retard sur le phénomène de société, Danone est rattrapé par le plastique bashing de grandes marques comme McDonald's ou la SNCF. L'image de l'eau minérale et son impact environnemental est devenue centrale dans les habitudes des Français. Un tiers a réduit ou stoppé sa consommation de bouteilles en plastique. 70% des 18-24 ans déclarent préférer désormais une gourde pour se désaltérer. Le groupe multiplie pourtant les innovations avec des fontaines et des recharges de 5 litres livrées à domicile. Mais si les ventes d'eau minérale en bouteilles plastiques devaient inexorablement décrocher, Danone n'exclut plus la possibilité de se séparer de son activité d'eau minérale, estime un spécialiste du marché.
Eh bien oui, Laurent Kramer, enfin pour qui sont ces drones qui bourdonnent sur nos têtes? Question d'avenir, si l'avenir est vraiment à la livraison par les drones. C'est ce que croient dur comme fer les professionnels du secteur. Ils tiennent leur premier salon européen à Bordeaux, alors que la semaine dernière, justement, une livraison en zone urbaine a été testée avec succès sur le marché de Rungis. C'était une première en France, Sébastien Sabiron.
Des fruits exotiques, des champignons et même une bouteille de champagne dans le ciel de Rungis, pas plus de 500 mètres de vol sur l'enclave du marché. Un essai modeste mais prometteur, se félicite Anne-Marie Haute qui dirige Pilgrim Technologies, l'entreprise qui a fait voler son drone à Rungis.
En ville, l'objectif reste de livrer les petits colis et notamment les colis urgents dans un premier temps. Ce qui serait fantastique, c'est par exemple si on pouvait relier les hôpitaux ensemble pour pouvoir livrer les poches de sang quand il y a un besoin dans un hôpital ou dans un autre.
Mais pour survoler les villes, il faudrait créer des couloirs aériens spécifiques au-dessus des toits et des aires d'atterrissage dédiées comme le Vertiport imaginé par la start-up Dragonfly Paths, sa PDG Cicel Tortensten.
Demain, comme on a des parkings dans les bureaux aujourd'hui, pourquoi pas des Vertiports pour drones sur des toits, sur les façades ou sur le parking de l'immeuble.
Avec les drones, moins de livraisons terrestres, donc moins de bouchons, moins de pollution. Sur le papier, il coche presque toutes les cases, mais il reste encore du chemin, estime Nicolas Marcoux, directeur programme drone à la Direction Générale de l'Aviation Civile.
La livraison par drone en ville nécessiterait surtout que le drone soit bien plus robuste, bien plus fiable que ce qui existe aujourd'hui dans le cadre des expérimentations.
Et en attendant les futures réglementations européennes, les drones livreurs ne devraient pas survoler la France avant 2030.
Ben voilà, plus de drones, moins d'abeilles.
C'est la morale de ce journal. Merci Florence Paracuelos. Marie-Pierre Planchon, la météo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Marie-Pierre, soleil dès ce matin avec quelques exceptions.
Et oui, des petits teints sur le nord-est. Les pluies de cette nuit qui s'évacuent vers la Belgique et l'Allemagne arrosent encore les Hauts-de-France, à la Lorraine, à l'Alsace, mais ces pluies seront de plus en plus rares. Puis on a aussi quelques brouillards le long de la Seine et dans le Val-de-Saône qui vont vite se dissiper. Puis dans le sud, on a ce vent, d'autant qu'il pousse les nuages de la mer, du Roussillon en Languedoc, en remontant vers le midi toulousain. Ailleurs, vous pouvez voir le soleil se lever sans pratiquement pas de gelée, excepté dans la Drôme comme à Sédéron. Le jour s'est levé avec 3 degrés en Haute-Loire, 7 à Strasbourg et Aurillac, 10 à Calais. Mais déjà 21 à Biarritz, 18 en Bretagne et 17 à Dunkerque.
Soleil et douceur cet après-midi.
Et oui, pratiquement pour tout le monde. Même sur le nord-est, on aura juste quelques nuages résistants, mais le ciel sera lumineux. En revanche, sur le golfe du Lion, les entrées maritimes, toujours poussées par ce vent, vont s'étaler jusqu'aux Cévennes et noder quelques pluies. Partout ailleurs, vous profiterez de cet après-midi ensoleillé, sous le vent, près des côtes, et il fera chaud. Mais ça ne va pas durer, profitez-en. Dans le sud-ouest, il fera 28, voire 30 au Pays Basque. Ailleurs, on attend 19 à Langres, 21 au Havre, comme à Nice, pas de jaloux, 22 en Auvergne. Vous aurez 23 à Paris comme à Marseille, 24 à Nantes et 25 à Bourges.
À tout à l'heure, Marie-Pierre.
À tout à l'heure.
France Inter, 8h18.